dirais que Benoît XVI se situe dans la tradition qu'avait surtout initié, je dirais, surtout Jean XXIII. Quand Jean XXIII va rendre visite aux prisonniers de Rome, bon, c'est quelque chose d'extrêmement marquant. Ça, c'est tout à fait novateur d'avoir un souverain pontife, je dirais, aller dans un établissement pénitentiaire. Il est aussi en droite ligne de ce qu'a fait évidemment Jean-Paul II. Et là, il faut quand même rappeler qu'il y a vraiment une évolution très importante chez Jean-Paul II en direction du monde carcéral à partir de l'attentat qui a failli lui coûter la vie. C'est-à-dire que c'est après cet attentat que Jean-Paul II a vraiment, de manière systématique, visité les prisonniers. Et quand il faisait ses grands voyages au plan international, il y avait presque toujours soit une visite des prisonniers, soit, s'il ne pouvait pas le faire, un texte qui leur était adressé. Donc je pense que Benoît XVI se situe, voilà, à mon avis, dans ce sillage-là.
Alors Benoît XVI, aujourd'hui, Jean-Paul II visite les prisonniers. Peut-on dire que cet engagement des chrétiens au prix des prisonniers était globalement inspiré aussi par les discours, les réflexions d'autres papes du XXe siècle sur cette question carcérale?
D'abord, le premier pape qui a, disons, influencé, en tout cas, a beaucoup intéressé, par exemple, les aumôniers de prison en France, c'est Pie XII, parce que Pie XII était un juriste renommé et il abordait à plusieurs reprises dans ses encycliques, dans ses textes plus largement, la question du droit pénal. Et donc lui, il a été dans les années évidemment 50 en particulier, assez souvent cité par les aumôniers de prison. Cela dit, la personne qui influence notablement les aumôniers de prison en France, enfin surtout pour ce qui est du XXe siècle, parce que il faudrait remonter un petit peu plus haut pour expliquer le développement de l'aumônerie de prison en France, surtout à partir de Saint-Vincent de Paul, hein, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle. Lui-même était aumônier des galériens et il avait établi une structure importante qui ressemblait déjà à un embryon d'aumônerie de prison. Sinon, pour le XXe siècle, enfin pour la France en tout cas, c'est quand même Monseigneur Rodin, le fondateur du Secours catholique, qui va être le premier à créer une aumônerie générale des prisons.
Qu'est-ce que démontre finalement cet engagement des chrétiens et des catholiques dans les prisons?
Il démontre déjà, enfin, si on regarde un petit peu le discours des uns et des autres, c'est quand même de montrer qu'il y a une rédemption possible, c'est-à-dire que le prisonnier lui-même n'est pas destiné, malgré parfois l'horreur des actes commis, est destiné de toute façon à pouvoir être pardonné aussi. Donc cette question de la rédemption, c'est quelque chose, je pense, qui est quand même spécifiquement chrétien. Si on compare aux actions d'autres organismes, on voit bien quand même que les chrétiens ou les personnes ou les humanistes, mais toujours plus ou moins quand même en lien avec le christianisme, ont été les plus actifs pour aider, pour venir, je dirais, entre guillemets, au secours des prisonniers. On est quand même dans une dominante qui est ou chrétienne ou d'inspiration chrétienne assez souvent.
Est-ce que cette présence chrétienne, catholique, dans les prisons a été tolérée par l'administration pénitentiaire elle-même?
Alors pour la France, disons que si on prend le 19e siècle, on a généralement un État français qui est favorable aux aumôniers de prison et surtout, au moins dans la première partie du Second Empire, l'administration pénitentiaire voit très bien qu'elle ne peut pas se passer de ses aumôniers et également des associations qui vont naître aussi en lien avec l'Église catholique. Donc au fond, c'est pour des raisons pratiques aussi, parce que les aumôniers jouent un rôle irremplaçable, même aux yeux d'une Troisième République laïque, que finalement, on va les maintenir et ils recevront même par la suite, non plus un traitement de fonctionnaire comme c'était le cas avant la séparation, mais une indemnité.
Est-ce qu'on peut dire que finalement les aumôniers, mais peut-être aussi les visiteurs de prison, mènent un travail, entre guillemets, que l'institution pénitentiaire ne peut pas mener?
Oui, complètement. Il est évident qu'encore aujourd'hui, si on enlevait les associations et au premier chef le Secours catholique, si on enlevait également l'ANVP, donc l'Association nationale des visiteurs de prison, qui s'est laïcisée, mais qui était auparavant l'OVDP qui était en lien avec la Société Saint-Vincent de Paul, puisque la Société Saint-Vincent de Paul a fait naître la grande association nationale des visiteurs de prison qui est l'OVDP. Et si on enlève ça, il est évident que, je dirais, il y aurait un manque très sérieux de soutien aux prisonniers, d'aide aux prisonniers. Et l'administration pénitentiaire, certainement, devrait investir beaucoup plus. Ça serait certainement assez dommageable pour son action aussi.
Alors pour conclure, peut-être que l'on pourrait dire aussi, et pour ne pas les oublier, qu'il y a eu des aumôniers de prison qui ont eu un rayonnement incroyable, tout comme aussi il s'est opéré en prison des conversions incroyables.
Oui, alors parmi les grands aumôniers de prison, on va avoir par exemple le père Brandicourt à Nancy, qui est un jésuite, qui va rester une trentaine d'années aumônier de prison, qui aura des difficultés avec l'administration parce que parfois il contournera un peu le fameux règlement intérieur, pour des raisons très basiques, c'est donner du chocolat à des prisonniers, donner du tabac, mais ne pas forcément référer au surveillant chef, occasionnera des problèmes jusqu'à être à la limite de devoir démissionner, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Il y a également le père Mouraine, autre jésuite. Il y a des dominicains, je pense au père Devoyau, qui a joué un rôle important dans la conversion de Jacques Fesch. Alors, pour les conversions elles-mêmes, il y en a plusieurs, même s'il est toujours difficile pour ces personnes-là de témoigner. On a plus de conversions, en réalité, qu'on ne le dit, puisque beaucoup de ces anciens détenus ne souhaitent pas forcément témoigner de leur vie carcérale, mais des personnalités comme Jacques Fesch, évidemment, ça a été ici, évidemment, des grandes conversions. Je pense à Jacques-Yves Antuine aussi. Enfin, on pourrait comme ça multiplier les exemples.